Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Good evening business, l'invité.
Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé à la bourse aujourd'hui, mine de rien?
Eh bien, EDF, on est parti.
Mais oui.
Enfin, ça faisait 17 ans.
EDF qui quitte la bourse, puisque désormais l'État possède 100% du capital. On va en parler avec Mathieu Pechberti qui est avec nous. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et puis Nicolas Meillant qui est avec nous en visio. Bonsoir Nicolas Meillant, merci beaucoup d'être avec nous. Entrepreneur, ancien conseiller scientifique à France Stratégie. Qu'est-ce que vous dites de ce qui se passe désormais? L'État actionnaire à 100% d'EDF. L'État stratège, donc on a dit pique-pendre. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt un atout ou un handicap pour EDF qui a tant de défis à relever finalement, Nicolas?
Écoutez, alors, d'un point de vue financier, par rapport à leurs investisseurs, étant donné la dette colossale d'EDF, 65 milliards d'euros, et les besoins de financement très importants à venir, avec le financement des prochains EPR, ça va plutôt dans le bon sens. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord, l'État avec Luc Rémont, est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs? Aujourd'hui, en fait, EDF, avec le mécanisme de l'AREN, est privé de ses moyens de financement. Et ça fait 10 ans, finalement, qu'on affaiblit EDF, puisqu'il vend à ses concurrents une électricité sous son coût de production. Et nous avons signé une tribune dans le Figaro mardi avec Henri Proglio, Le Floch-Prigent, Arnaud Montebourg, Raphaël Schellenberger, le président de la commission d'enquête, Hervé Macheteau, pour dire qu'il faut suspendre l'AREN tout de suite. C'est prévu dans les textes, c'est dans la loi NOM. En cas de circonstances exceptionnelles, on peut suspendre cette AREN. Pour vous expliquer pourquoi il faut faire ça, aujourd'hui, tous les Français, à part les industriels électro-intensifs, payent une électricité à 300 euros du mégawattheure hors bouclier tarifaire. Et le coût de l'électricité en France, pour 90%, c'est 60 euros. Donc on doit retrouver cet atout stratégique. Et avec l'AREN, EDF n'a aucune chance de s'en sortir.
Mais alors justement, comment est-ce que vous jugez de ce point de vue-là les premiers mois de Luc Rémont? Parce qu'on entend dire quand même qu'il y a des divergences de point de vue avec le gouvernement, puisque lui voudrait justement précisément avoir les coudées franches pour fixer les prix de vente.
Luc Rémont, si vous voulez, pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose, on n'a pas d'annonce, pas de plan. Et le problème de Luc Rémont, c'est qu'il arrive dans une entreprise tout seul, sans son entourage, sans sa garde rapprochée, sur un sujet qu'il ne connaît pas. Et je suis pas sûr, si vous voulez, EDF, c'est une tradition de service public. Je suis pas sûr que ce service public soit quelque chose qui l'anime, étant donné qu'il faisait partie de la banque qui a vendu Alstom à General Electric. Donc le problème avec EDF, c'est que ça fait quand même plusieurs générations qu'on a des présidents plutôt mauvais. Jean-Bernard Lévy qui a fermé Fessenheim, Pierre Ganonex qui a laissé Areva.
Il a l'avantage peut-être, Nicolas, lui, d'être au moins du CERA, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur, si je ne m'abuse, à savoir Jean-Bernard Lévy. Non, c'est pas un point pour vous à soulever, ça, de positif?
Il est du CERA, mais vous savez, ce n'est pas les mêmes équipements. Schneider Electric, ce n'est pas le même métier. Donc, il faudra voir. Il a quand même dit que l'AREN était à bout de souffle, qu'il fallait en changer. Ce mécanisme doit durer jusqu'à 2025. Et maintenant, les gens demandent, qu'est-ce qu'on fait ensuite? La suite, c'est assez simple. On a voulu créer un marché de la concurrence face à EDF, qu'a du nucléaire et l'hydraulique. On s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné. Les alternatives, 125 fournisseurs alternatifs n'ont pas investi dans les capacités de production. C'est ce qui était prévu. Dont acte, on revient à un monopole avec EDF. On remet en place des tarifs régulés pour nos entreprises, parce que c'est pour ça qu'on a créé l'AREN. On était sous procédure de la Commission européenne, puisque pour concurrence déloyale, parce que nos entreprises avaient une électricité trop bon marché. On revient à ces règles. L'Allemagne met 200 milliards d'euros sur la table pour aider ses entreprises. Oui. On n'a plus à se cacher.
Mais alors justement, aujourd'hui, Mathieu Pechberti, il y a eu une déclaration à la fois de Luc Rémont et de Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui sont tous les deux tombés d'accord pour dire que EDF n'est pas nationalisé, mais qu'il a un seul actionnaire à 100% et c'est différent. Est-ce que c'est une forme de rébellion?
Alors en tout cas, oui, alors cette petite phrase a été prononcée par Luc Rémont il y a quelques heures, et avec un Patrick Pouyanné, effectivement, patron de Total Energy, en face, qui s'est toujours un petit peu battu contre EDF, hein, pour être clair, et qui, lui, est d'accord pour dire on n'a pas besoin de la réglementation de l'État, faisons des opérations commerciales entre EDF et Total, et les autres fournisseurs, mais lui parlait pour Total, sous-entendant que EDF était une entreprise, entre guillemets, encore privée. Et donc, le Crémon a eu cette petite phrase en disant EDF, effectivement, n'est pas nationalisé, mais un seul actionnaire.
Lourde conséquence, oui, donc, pour prolonger la question de si Dorez, il y a une forme de rébellion dans tout
à
ça.
À partir d'aujourd'hui, l'État a 100% du capital d'EDF, donc EDF est une entreprise nationalisée et son PDG qui vient du privé, qui a été recruté par l'État du privé, est en train de dire « mais je ne suis pas nationalisé ». Donc c'est pour vous donner un petit peu
l'ambiance,
le tableau. En fait, Luc Rémont, lui, se rend bien compte que s'il laisse faire, vous allez avoir tous les ministres du gouvernement, tous les hauts fonctionnaires de toutes les administrations qui vont vouloir mettre leur grain de sel dans la gestion d'EDF en passant, du financement des réacteurs à l'imprimante. C'est un petit peu ça. Ça fait quand même 6 mois qu'on entend beaucoup dans les couloirs des ministères « oh, EDF, il faut faire ci, il faut faire ça ». Il y a quand même beaucoup dans les administrations qui sont contents parce qu'ils ont un nouveau jouet qui s'appelle EDF. Lui, Luc Rémont, il arrive du privé. Il voit une entreprise qui est complètement exsangue. Hein, elle serait privée, on dirait qu'elle est en situation de faillite.
64 milliards d'euros de dette.
Mais elle est exsangue.
64 milliards d'euros de dette.
Donc lui, il veut redresser la boîte.
Bah donc lui, en fait, justement, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut gérer le groupe comme une entreprise et pas comme une administration.
Et oui, mais enfin, il a un actionnaire qui s'appelle l'État français. Donc à un moment donné, on se dit, bon, on a l'impression de faire rentrer des ronds dans des carrés. Ce que je veux dire, c'est que lui, il n'a pas 36 000 solutions. Il a des parcs, il a un parc à entretenir, et puis en tout cas à faire redémarrer pour la plupart. Il a des réacteurs à faire financer, et il a des prix à fixer. Et lui, il dit, en gros, pour terminer, à l'État, laissez-moi tranquille, laissez faire mon boulot, je vais fixer mes prix avec mes clients, que ce soit les consommateurs en leur proposant évidemment des prix à la facture pas trop élevés, et puis avec les entreprises, je vais me débrouiller seul. Alors que l'État, lui, veut tout réguler lui-même. Pour éviter justement que les prix d'électricité pour les consommateurs n'augmentent trop.
Justement, la feuille de route, Nicolas, et je vous poserai la question à vous, Mathieu, aussi dans un instant. Nicolas Meillant, parmi les objectifs de Luc Rémont, les défis, la feuille de route, il y a financer la construction de ces 6 EPR, dont les premiers devraient être opérationnels, nous dit-on, aux alentours de 2035. Il y a une estimation qui tourne autour de 50-51 milliards d'euros pour les 6 EPR.
Hors inflation.
Est-ce que l'entreprise, forcément, ne pourra pas absorber seule, Nicolas? Comment est-ce qu'on va résoudre déjà cet impératif de court terme? Finalement, parce que c'est aujourd'hui que ça se budgète tout ça.
Ce qu'il faut vraiment résoudre, c'est que EDF avant était une entreprise qui fonctionnait bien parce qu'elle gagnait de l'argent, parce qu'elle vendait l'électricité au-dessus de son coût de production.
Oui.
Aujourd'hui, plus de la moitié de l'électricité, elle le vend en dessous. Donc déjà, il faut remettre le modèle d'affaires en marche pour qu'elle puisse avoir des coûts des franches et qu'elle puisse générer du cash chaque année et pas faire 20 milliards d'euros de pertes. Donc ça, c'est la première étape et c'est très simple, comme j'ai dit, c'est le ministre de l'économie et le ministre de l'énergie qui signent un décret pour suspendre l'arrêt sans délai. C'est pas quelque chose qu'on invente, hein. C'est la commission d'enquête Raphaël Schellenberger, ça fait partie des 30 propositions, suspendre l'arrêt et le compenser bien évidemment pour nos entreprises, parce que je veux quand même rappeler, vous regardez bien ça chez BFM Business, nous sommes à un niveau de défaillance au plus haut depuis 8 ans sur nos TPE et nos PME qui payent des prix d'électricité 3, 4, voire 10 fois plus cher qu'il y a 2 ans.
Mathieu Pechberti, 1, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Nicolas vient de dire? Et 2, est-ce que vous dites quand même que le fait que EDF soit détenu aujourd'hui à 100% par l'État va faciliter les discussions du gouvernement avec Bruxelles, notamment sur le sujet du financement des 50 milliards pour les nouveaux EPR?
Alors, sur ce point-là, c'est clair que ça va, en tout cas...
aider.
Aider, faciliter, je ne sais pas, ça ne sera jamais facile avec Bruxelles, mais disons qu'il y aura un seul pilote dans l'équipe de France, on va dire, de l'énergie.
Alors nucléaire fait partie de la taxonomie.
C'était le bazar.
Ouais.
Voilà. Donc, oui, ils vont aller, on va dire, main dans la main à Bruxelles. La question, c'est effectivement, comment finance-t-on les réacteurs? EDF n'a pas d'argent, d'accord? On part de ce postulat.
Non seulement ils n'ont pas d'argent, mais ils ont une grosse dette, oui.
L'État français vient de mettre en un an et demi 15 milliards d'euros pour relancer EDF, pour le retirer de la cote. Et on est en train de voir si, sur les 50 milliards, on ne peut pas aller puiser pour environ un tiers de ses besoins de financement sur le livret A. On a demandé aux Français s'ils ont envie que le livret A finance le nucléaire. J'en sais rien. Donc, il va falloir aller voir Bruxelles.
On n'a pas le choix,
mais en allant voir Bruxelles, en disant que l'État, maintenant, est actionnaire unique d'EDF, que l'État veut fixer une nouvelle régulation. On va revenir sur les concessions que Bruxelles demande en échange à EDF et au gouvernement français. Et vous faites des efforts pour relancer la concurrence en France, alors même qu'on vient de nationaliser EDF, et donc vous vendez des bouts d'EDF.
Oui.
Voilà. Après, sur la régulation, c'est autre chose qui vient d'être dit par Nicolas Meillant. C'est-à-dire que il y a un choix politique à faire. Voilà. La fin de la régulation, est-ce que vous voulez une régulation entre guillemets encore dites entre guillemets un petit peu de concurrence, où EDF va signer des contrats avec des entreprises industrielles de services en disant moi je vous vends de l'électricité à tel prix, à tel prix, à tel prix, auquel cas il y aura quand même encore un petit peu de concurrence, c'est-à-dire en tout cas pour les clients, mais les prix vont augmenter de toute façon.
Oui.
Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement français qui vient de mettre en place un bouclier tarifaire, qui sait que dès que ça va s'arrêter, les prix vont exploser, donc qui dit non, non, nous, on veut pas de hausse de l'électricité.
Il a déjà ponctionné EDF à hauteur de quelques 8 milliards, 8-9
milliards.
Mais
si vous augmentez pas les prix de l'électricité, vous avez quand même beaucoup plus de mal à investir.
Bah, je vous rappelle quand même que la réforme du marché européen de l'électricité est à l'agenda de la Commission européenne, hein, et la France espère
bon courage, parce que l'Allemagne,
ça se met en place en fin d'année.
A tout gelé, et l'Allemagne ne fera aucun cadeau à la France là-dessus.
Oui. Enfin, ça fait 20 ans que ça dure. Et la France ne fera aucun cadeau de la même manière à l'Allemagne.
On a 30 secondes, Nicolas Meillant, mais on le disait, c'est cette dette absolument faramineuse de 64 milliards d'euros, si au moins une chose que va permettre de ramener EDF à 100% dans le giron de l'État, c'est de calmer un petit peu les agences de notation qui sont prêtes à tout instant à dégrader la note d'EDF. C'est toujours ça de prix, voilà, finalement.
C'est toujours ça de prix, mais je veux quand même rappeler qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché de l'électricité. C'est un mythe, puisque vous avez un producteur d'électricité et des producteurs de factures. Elle n'existe pas, la concurrence, et c'est bien ça le problème. Et il faut la rétablir, la concurrence. Il faut que les acteurs vendent de l'électricité.
Nicolas, n'existe pas, sauf qu'EDF doit revendre le quart de sa production, je crois, à des tarifs complètement cassés. Donc elle existe, elle est néfaste
justement,
aussi.
C'est ce que je dis bien.
Oui.
C'est ce que je dis bien. Ils la vendent, et donc ses concurrents qui lui piquent des clients revendent l'électricité d'EDF. Donc ça n'est pas de la concurrence. La concurrence, elle doit être sur l'électricité. Ceux qui ont joué le jeu, qui ont investi dans les capacités d'électricité, ils peuvent la vendre. Ceux qui n'ont pas joué le jeu, ils disparaissent. Point barre.
Ouais, on en est là aujourd'hui.
Et le problème, quand même, Nicolas, c'est que personne ne veut investir dans le nucléaire.
Écoutez, après, ça, c'est vrai qu'il y a un débat à Bruxelles, Bruno Le Maire, puisque les Allemands ne veulent pas inclure le nucléaire dans la taxonomie. Je vais quand même finir par une bonne nouvelle, parce qu'il y a
cette tendance. Allons-y, on est preneurs.
Dans les discussions qu'il y a sur la réforme du marché de l'électricité au niveau européen, comme on sait que c'est l'Europe, c'est un gros bateau, ça va prendre du temps, peut-être un an et demi, mais c'est d'inclure des contrats à long terme sur le nucléaire, y compris existant. Donc ça, ce serait quand même un moyen, déjà pour EDF, de pouvoir vendre sa production plus à 42 € du mégawatt-heure. Hein. Le coût de production du nucléaire complet, c'est 60. Donc il vend à un tiers de moins. Mais donc déjà, de pouvoir mieux financer ce nucléaire existant. Et puis après, effectivement, il faut mobiliser l'épargne des Français. Et vraisemblablement, l'État va devoir mettre au pot.
Et ben voilà, donc pour EDF qui quitte la côte ce soir après 17 ans et beaucoup, beaucoup de questions encore sans réponse. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Meillant, entrepreneur, merci ancien beaucoup. Conseiller scientifique à France Stratégie. Merci beaucoup Mathieu Pechberti.
Merci.
Et dur le patron Lucré, pourtant nommé par Emmanuel Macron. Hein, qui...
Au moment, oui, c'est l'incertain.
Ça commence à sentir la rébellion là quand même.
Ah bah oui, mais il n'a pas le choix, sinon
il a vu ce que ça donnait chez les prédécesseurs.
C'est jamais simple d'être patron d'EDF de toute façon. Merci beaucoup Mathieu d'être passé de voir.